Merci d'écouter RFI, 3h à Paris, 2h temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
Et 4h à Bukavu, les combats entre le M23 soutenu par le Rwanda d'un côté et de l'autre l'armée congolaise et ses alliés se rapprochent de la capitale du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, une ville où les habitants peinent de plus en plus à se nourrir sans trop dépenser. Reconstruire un pays ruiné par 13 ans de guerre, c'est plus simple avec des alliés, c'est ce qu'a compris Ahmad Al-Sharaa en se rendant en Arabie Saoudite ce dimanche. Premier déplacement à l'étranger réussi selon le nouveau président syrien. Après avoir tapé du poing sur la table, Donald Trump attendrit un peu sa position vis-à-vis du Mexique et du Canada. Le président américain accepte de discuter avec les deux pays à qui il a imposé de nouveaux droits de douane. Et puis l'Union européenne ne veut pas se laisser dépasser par la puissance de l'intelligence artificielle. Un tout premier règlement européen vient d'entrer en vigueur pour l'encadrer, un texte qui a déjà ses détracteurs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le sud Kivu entend les combats se rapprocher. Le M23 soutenu par le Rwanda avançait dans la direction de Bukavu en fin de semaine, c'est ce que disait craindre l'ONU. Mais alors que Goma est désormais contrôlé en grande partie par le Rwanda, de l'aveu même du gouvernement congolais, des déplacés ont quitté la capitale provinciale du Nord Kivu pour se rendre à Bukavu en traversant la frontière rwandaise malgré les risques. Certains viennent aussi des villages de Kalehe. La situation sécuritaire qui pèse aussi sur les courses alimentaires des habitants de Bukavu. William Bassimike.
Debout devant la porte d'un dépôt, Rosette veut se procurer de quelques sacs de farine pour sa famille.
Je suis en train de faire mon stock. J'ai déjà acheté de la braise, des haricots, de l'huile et maintenant de la farine. Nous avons un peu peur, mais nous avons confiance. Notre armée va battre le M23 et nous l'encourageons.
À cause de la guerre, Bukavu est privé des denrées alimentaires en provenance du Nord Kivu. Conséquence, les prix commencent à monter. Dans son dépôt, Jean-Jacques Biragui fait part de ses craintes.
Le prix de la farine va augmenter car elle provient de Goma. Pareil pour les haricots. D'autres proviennent du Rwanda. Le lait de Goma devient de plus en plus rare, sauf pour ceux qui en avaient en grande quantité. La pomme de terre se vendait à 3000 francs. Actuellement, c'est 3500. Alors s'il n'y a pas un couloir ouvert pour le commerce, les prix vont augmenter.
Après avoir fini ses courses au marché, Lebon, 51 ans, jette son téléphone. Il accuse les réseaux sociaux de diffuser des fausses informations et s'adresse au gouvernement congolais.
Ce sont les réseaux sociaux qui créent la panique. Parfois, on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi, je suis favorable à ce que l'on ferme les réseaux. Le président Tshisekedi doit les couper car nous avons besoin de silence. Il faut laisser l'armée se battre.
Dans son message à la société civile, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, a exhorté les habitants à rester unis et à lutter contre la peur. Il appelle les Congolais à ne pas reproduire les erreurs du passé. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Un changement de régime politique, c'est aussi des relations diplomatiques redessinées. C'est pour cela qu'Ahmad Al-Sharaa avait choisi ce dimanche l'Arabie Saoudite pour son tout premier déplacement à l'étranger. Le nouveau président syrien a salué la volonté de Riyad de soutenir son pays, Oriane Verdier.
Dans un communiqué publié par la présidence syrienne, Ahmad Al-Sharaa décrit une longue réunion avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Des discussions autour de l'énergie, de la technologie, de l'éducation et de la santé pour un véritable partenariat, développe-t-il, pour préserver la paix et améliorer la réalité économique du peuple syrien. Après 13 ans de guerre, la destruction et la situation humanitaire sont catastrophiques et la Syrie a besoin d'investissements. L'Arabie Saoudite tente également d'aider son nouveau partenaire à retrouver une place au sein du monde arabe et sur la scène internationale. Il y a 2 semaines, Riyad accueillait d'ailleurs dans cette optique les chefs des diplomaties européennes et du Moyen-Orient. La semaine dernière, en visite à Damas, le ministre des Affaires étrangères saoudien avait renouvelé l'appel à lever les sanctions imposées par la communauté internationale à la Syrie de Bachar. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, le pays était encore le territoire de l'Iran, principale puissance concurrente de Riyad dans la région. Sous Bachar al-Assad, l'Arabie Saoudite avait tenté ces dernières années un rapprochement avec Damas, mais le processus de normalisation s'était confronté au manque d'engagement du pouvoir syrien, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue.
Oriane Verdier, c'est presque devenu une obsession ces dernières semaines dans les discours de Donald Trump. Dès son investiture le 20 janvier dernier, le président américain avait assuré vouloir reprendre le canal de Panama pour enrayer l'influence chinoise. un carrefour maritime sur lequel s'est rendu Marco Rubio ce dimanche. Le secrétaire d'État américain a aussi rencontré le président panaméen pour lui réclamer des changements immédiats, sans quoi les États-Unis prendraient des mesures. Et puis après la punition, Donald Trump ouvre la porte à la discussion. Le président américain a annoncé qu'il discutera ce lundi matin avec le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau et avec le gouvernement mexicain, deux pays dont la grande majorité des produits seront désormais taxés de 25% à leur entrée aux États-Unis. La Chine, elle, se voit infliger 10% de droits de douane supplémentaires. Ces trois pays qui, selon l'administration américaine, sont trop laxistes sur le sujet du fentanyl, une drogue qui est à l'origine de plus de 70 000 décès par overdose l'année dernière, Nicolas Rocca.
Des droits de douane censés endiguer la route du fentanyl. Donald Trump l'assure, les principes actifs de cet opioïde sont produits en Chine avant d'être envoyés au Mexique. Ensuite, les laboratoires des cartels les transforment en drogue pour les vendre aux Américains. Cet été, les autorités chinoises ont promis d'augmenter les contrôles. Les principes actifs du fentanyl sont utilisés à faible dose par l'industrie pharmaceutique et la Chine s'est engagée à vérifier que ces exportations soient uniquement destinées à cet usage et non pas aux trafiquants. Une bonne volonté qui ne doit pas être considérée comme acquise, a ensuite précisé Pékin en réponse à des menaces sur d'éventuelles hausses des droits de douane. Le Mexique a de son côté inscrit en décembre dans sa constitution l'interdiction de la production, la distribution et la consommation sans ordonnance de fentanyl. Toujours pas suffisant pour la Maison-Blanche qui indique dans une note que les droits de douane resteront en vigueur jusqu'à ce que la crise s'atténue, sans préciser ce qu'elle attendait pour y parvenir.
Nicolas Rocca, Donald Trump qui a ajouté cette nuit que des mesures douanières dirigées cette fois contre l'Union Européenne seraient à prévoir très bientôt. L'UE anticipe donc, ce dimanche les 27 ont annoncé une riposte forte si les menaces américaines étaient mises à exécution. Et puis comment maîtriser une technologie qui se développe à toute vitesse? L'Union européenne, justement, tente une réponse en mettant en œuvre ce dimanche son premier grand texte pour encadrer l'intelligence artificielle. L'une des mesures clés, c'est l'interdiction de systèmes de reconnaissance faciale pouvant catégoriser en direct dans l'espace public les personnes en fonction de leur race, leurs opinions ou encore leur sexe. Sauf que des exceptions seront prévues pour les forces de l'ordre et ça, eh bien, Katia Roux le regrette. Elle est chargée de plaidoyer technologie et droits humains à Amnesty International.
Dans le texte, il y a déjà une exception générale formulée pour l'application du texte quand il s'agit de la sécurité nationale, ce qui est problématique. Mais après, si on regarde certaines situations, par exemple, les systèmes de reconnaissance des émotions sont interdits sur le lieu de travail, dans les établissements d'enseignement, ce qui est une bonne chose, mais ils vont être autorisés, par exemple, par les services en charge de l'immigration, ce qui est déjà le cas, puisque déjà ces systèmes sont testés aux frontières de l'UE avec des technologies de reconnaissance des émotions qui vont, par exemple, détecter si la personne qui souhaite franchir la frontière a priori dit la vérité ou pas, et en fonction du résultat du système sera orientée vers un interrogatoire plus poussé ou alors pourra passer à l'étape d'après. Donc ce sont déjà en fait des technologies qui sont déployées dans nos pays et qui pour autant comportent des grands risques d'accentuation, donc des discrimination, d'atteinte au droit à la vie privée et puis l'effet dissuasif que ces technologies peuvent avoir sur l'exercice des droits et des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, on considère que ce texte, même s'il va dans le bon sens, est une opportunité manquée de véritablement interdire les technologies incompatibles avec les droits humains.
Katia Roux interrogée par Laura Martel. Et puis un premier grand test post-Jeux Olympiques pour les meilleurs judokas du monde. En France se tenait ce week-end le Paris Grand Slam. Cependant, toutes les stars n'étaient pas au rendez-vous. Teddy Riner, par exemple, a été empêché par un retour de blessure à 35 ans et après avoir remporté deux nouvelles médailles d'or olympiques l'été dernier, le Guadeloupéen veut désormais se concentrer sur la préparation des Jeux de Los Angeles 2028.
Ça faisait trop longtemps que je laissais traîner. Aujourd'hui que j'ai réussi à gagner mon troisième titre olympique et ma cinquième médaille d'or olympique, je me suis dit voilà, si tu veux partir sur Los Angeles, il faut faire les choses bien. Donc il fallait que je passe sur le billard, qu'il resculpte un petit peu mon articulation, qu'il nettoie toutes les malfaçons. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc du coup, j'ai attaqué la rééducation. Et puis, step by step, on va revenir tout doucement. Je me précipite pas. Los Angeles, c'est dans maintenant 3 ans et demi. Il faut se laisser le temps, il ne faut pas courir, parce qu'une Olympiade, c'est long. Il va falloir monter sur des beaux tournois, aller bien se préparer, comme j'ai fait pour Paris. Prendre son temps, mais bien se préparer.
Teddy Riner au micro d'Éric Mamrut. C'est la fin de ce journal sur RFI dans quelques secondes, 3h10 à Paris, 2h10 en temps universel.